I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon et notre rendez-vous du vendredi Tout s'explique, où l'on échange sur la sexualité, la santé et la société. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, parlons de vaginisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaginisme correspond, chez les personnes de sexe féminin, à un spasme des muscles du plancher pelvien qui entoure le vagin, qui entraîne une occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse. Mais, alerte Angela Bono, sexologue sexothérapeute, et Margot Morel, ostéopathe sexologue, autrices toutes les deux de « Vaginisme, comprendre, se soigner, s'épanouir » aux éditions La Musardine, il n'y a pas un, mais des vaginismes, avec des manifestations différentes, avec des causes différentes. Margot Morel, bonjour, pourquoi insister sur les vaginismes ?
Le vaginisme, il a été clairement défini par l'Organisation mondiale de la santé, c'est une contraction réflexe involontaire répétée, persistante, des muscles qu'on appelle le périnée et qui viennent enlacer, entourer le vagin en cas de tentative de pénétration d'un doigt, d'un objet, d'un pénis. Nous, ce qu'on avait envie de dire avec Angela, c'est que chaque femme était effectivement unique et donc leur histoire aussi et leur vaginisme également. Et je vais laisser Angela expliquer pourquoi nous, on parle des vaginismes avec un S et que c'était important pour nous.
On s'est rendu compte que les vaginismes, ils n'arrivaient pas forcément au même moment dans la vie. Ils arrivent à différentes périodes. Ils ne sont pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir des douleurs. D'autres, où ça va être complètement fermé. Donc, on va parler un peu de vaginisme total, de vaginisme partiel. Il va y avoir aussi cette idée qu'on souffre de vaginisme uniquement si on a eu un traumatisme. Ça, c'est quelque chose qui va revenir, alors que, en fait, bien sûr, un traumatisme peut amener à un vaginisme, mais pas forcément. Déjà, on peut avoir un traumatisme et ne pas avoir de vaginisme, et on peut avoir un vaginisme sans avoir eu aucun traumatisme dans sa vie sexuelle. Ça peut être lié à un événement de vie. Et donc, c'était toutes ces différences-là qu'on avait envie de souligner et de voir que bah, même s'il y avait des points communs, on ne les abordait pas de la même façon.
Donc, on est bien au croisement entre la physiologie, donc l'anatomie, vous avez parlé du périnée, et la psychologie aussi. Et puis, rappelons, vaginisme, donc ça fait référence au vagin, donc aux personnes qui ont des vagins. Par communauté de langage, on va parler donc des femmes, même si toutes les femmes n'ont pas de vagin. Les vaginismes, c'est quelque chose qui n'est pas connu, vous le dites dans cet ouvrage. D'ailleurs, on ne sait pas forcément la prévalence dans la population française. On n'a que des estimations.
Oui, on n'a que des estimations parce que actuellement, dans la population française, on a tendance à dire que c'est 1 à 10% des femmes, enfin des personnes munies d'un vagin. De fait, ces chiffres sont probablement biaisés, déjà par les études scientifiques, parce que il y a des femmes qui sont en errance diagnostique, donc elles ne peuvent pas dire qu'elles en souffrent. Et puis, parce que c'est un sujet qui est encore très tabou, bien qu'on parle beaucoup plus de sexualité, les vaginismes spécifiquement est un sujet dont on ne parle pas. Donc les statistiques sont à mon avis totalement biaisées. Et Angela va peut-être nous raconter un petit peu, nous, ce qu'on voit au cabinet quand même, qui est un peu plus grand que ces statistiques-là, justement.
C'est vrai que ça peut paraître surprenant, parce qu'entre 1 et 10%, il y a quand même un grand écart. Et nous, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que oui, on avait sûrement un biais, parce que notre métier, c'est de la sexologie. Donc forcément, on a des personnes qui arrivent avec des troubles. Et on est plutôt sur un quart, en fait, de notre patientèle qui a des vaginismes environ. Donc après, ça va dépendre des moments. Voilà, mais on a plutôt ça. Et puis, il y a vraiment, en fait, une partie sociale qui fait que ça cache cette trouble. On voit qu'il y a la notion de honte, la notion de normalité autour du fait d'être pénétré quand on a une sexualité. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment commencé ma sexualité si je n'ai pas été pénétrée. Ça, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, c'est tabou parce qu'on va pas aller dire que on l'a pas encore fait d'une certaine manière. En tout cas, pour les vaginismes primaires. Donc, en plus du côté physiologique et psychologique, il y a cet élément social qui revient quand même assez régulièrement dans nos consultations.
toutes les personnes sont différentes, quels sont les symptômes alors les plus caractéristiques, on va dire, des vaginismes?
Pour moi, le symptôme caractéristique, c'est la contraction réflexe du périnée. Et elles disent, je suis bloquée, verrouillée, c'est serré, c'est un mur, c'est coudé. C'est-à-dire qu'il y a un bout qui passerait, mais pas l'entièreté de l'objet ou du pénis ou du doigt. Et ça, pour moi, ça revient quasi 100% des cas. Après, il y a la question de la douleur. Angela en a un petit peu parlé. C'est pas tout le temps le cas. Donc, un vaginisme ne fait pas forcément mal. En revanche, il y a un truc qui revient très souvent, qui est la peur de la douleur. Et ça, pareil, c'est quelque chose, cette émotion de peur, souvent liée à la douleur, mais ça peut être après lié à la déchirure, il y a d'autres images. Ça fait partie du tableau clinique typique.
Sur la peur, on est dans un cercle vicieux. La peur de la douleur, en fait, elle arrive aussi de manière sociale. C'est-à-dire que qui, en fait, n'a pas entendu que de toute façon, la première fois, ça allait faire mal. Ces croyances, elles s'intègrent, en fait, au fur et à mesure et elles créent aussi les vaginismes. Donc, c'est pas lié que à ça, bien sûr. Mais en tout cas, on sait que ça va soit les aggraver, soit les maintenir aussi. Et puis, au niveau de la peur, il y a aussi le fait de pas maîtriser, d'être vulnérable. Être pénétré, en fait, c'est pas du tout la même chose que pénétrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'amener aussi dans le livre.
Est-ce que vous pourriez donner 2-3 conseils pour les personnes qui souffrent de vaginisme ?
C'est pas facile parce qu'on aime bien rappeler avec Angela qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle et on voit beaucoup sur la toile les 5 tips pour se dépasser ou pour guérir, pire encore, des vaginismes. Mais bon, on a des choses à dire quand même. Bah, d'abord, mieux connaître leur corps et leur sexe, c'est-à-dire on en a parlé via l'anatomie, mais aussi l'observation et comprendre aussi comment ça fonctionne parce que l'anatomie suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi la pratique au-delà de la théorie. Et puis... il y a aussi la question, bien sûr, Angela en a parlé, mais des croyances, c'est-à-dire quelles sont les normes sexuelles qui m'entravent ou non, ou qui m'encadrent dans ma sexualité, et puis comment j'ai réussi à me construire sexuellement, érotiquement, et ça c'est important qu'elle puisse y réfléchir, en tout cas dans les conseils.
On a voulu aussi faire un grand éclairage sur le couple parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Finalement, elles sont rarement seules puisqu'il y a une volonté d'arriver à la pénétration. Alors, bien sûr qu'on a des patientes célibataires, mais on a voulu qu'il y ait une responsabilisation, en fait, du partenaire ou de la partenaire et qu'elle puisse prendre son rôle. Souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté. C'est-à-dire que avoir envie de pénétration dans un couple, c'est pas bête ou illégitime, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça et comment le partenaire peut en fait aider cette personne, comment il peut se positionner. On a essayé de donner des éléments autour de la notion de plaisir qui nous paraît l'élément clé et de plus être dans cette notion d'obligation à la pénétration, mais comment arriver à la pénétration plaisir et pas à la pénétration obligation, quoi.
On est vraiment au croisement physiologique, psychologique, mais plus largement aussi sociétal, de résister à ces injonctions aussi. Et d'ailleurs, Angela, vous le disiez, cette injonction à la pénétration.
Tout à fait. Et à côté de ça, nous, on a quand même la volonté que la pénétration, c'est bien, et la pénétration, c'est une pratique qui fait partie du script sexuel, quoi qu'il arrive, et c'est normal, entre guillemets, de pouvoir en avoir envie, de pouvoir y arriver, en fait, dans le couple ou pas dans le couple, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste un peu parce que c'est vrai que actuellement il y a un peu l'injonction inverse de non mais libérez-vous de la pénétration n'est pas obligatoire. Ouais, mais en fait la pénétration ça peut être super si elle est adaptée, si on arrive à y trouver du plaisir, et ça c'est quelque chose qu'on tient à ce que ça soit quand même mis en avant, quoi.
On tient à ce que ce soit mis en avant, pardon, mais aussi parce que c'est la demande des patientes. En fait, nous, on est avant tout soignantes aussi. Mmh. Et donc, ce qui se passe et ce qui est très bien sur les réseaux ou partout sur la question du sexe hors pénétration et qui est très chouette, hein, répond pas toujours aux attentes, tout simplement, des patientes qu'on accompagne. Nous, on les accompagne aussi pour qu'elles atteignent leur objectif.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts ou Spotify. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.